Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce moment ensemble. Merci pour la joie, vraiment, la joie d'être dans ta présence. Merci quand nous avons chanté que je voudrais habiter dans ton temple. Alors ton temple, c'est ta présence et elle est partout. Elle est partout. Donc partout où je vais, partout où nous allons, il y a ta présence. Je trouve ça vraiment formidable. Merci Seigneur pour cette grande liberté que tu nous as donnée d'être dans ta présence partout où nous sommes. Garde-nous vraiment, aide-nous à vraiment garder ça dans nos cœurs, de vraiment saisir cette réalité, cette vérité, que partout où nous sommes, tu es avec nous. Donc nous sommes dans ton temple. Nous sommes dans ta présence. Merci Seigneur. C'est toujours une joie de vous encourager. C'est vraiment une joie. J'ai une joie dans mon cœur. Ça fait des années que j'ai lu la Bible, mais j'ai seulement commencé à enseigner un peu maintenant. Je voudrais vous dire des choses que vous savez déjà, je pense, mais c'est pour vous encourager. Donc vous me dites, si je vous dis, oh non, ça nous embête, parle-nous autre chose. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin que j'ai entendu, mais le Seigneur m'a rappelé ce matin. J'ai entre mes mains la Bible. J'ai entre mes mains la plus grande lettre d'amour. Et je vais vous le prouver. Bon, vous le savez, hein, voilà. Pourquoi je dis ça? Ben, on va pas regarder les versets, enfin, pas tous les versets, parce que j'ai d'autres choses, mais juste pour introduire mon thème, qui est le mot, j'avais reçu le mot attaché, être attaché. Pour introduire ce thème, qu'est-ce qu'on trouve en Genèse 1, 2 et 3? Quel est le récit que nous retrouvons en Genèse 1, 1 et 2? La création et avant la chute. Ah, vous voyez, on est un peu oublié quand même, parce que moi, ce que le Seigneur m'a dit ce matin, c'est la création et un mariage. Parce que Adam est présenté à Ève, il y a un mariage avant la chute. Bon, le plan de Dieu, c'était quand même pas la chute, hein. Il savait que ça allait, bon, dans sa toute connaissance, il savait, donc il a pourvu. Mais au début, il y a création et mariage. Il y a le mariage d'Adam et Ève. Bon, on n'a pas le mot, mais on a la réalité. C'est Dieu qui est le Père qui présente le marié à son épouse. Bon, le mariage n'est pas consumé avant la chute. Bon, ça c'est aussi dans le dessein de Dieu pour que tout homme soit dans la même situation. Vous imaginez, ça aurait été, s'il y avait eu des enfants avant la chute et après, ça aurait été compliqué. En tout cas, c'était pas comme ça. Le mariage n'est pas consumé avant la chute. Donc, tout homme est pécheur. Ouais, il est pécheur. Mais en plein milieu de la Bible, on retrouve Cantique des Cantiques. Je sais pas si je vais là. Voilà. Cantique des Cantiques. Et c'est un verset que j'ai médité cette semaine. Vers la fin, c'est chapitre 8, versets 6 et 7. Donc là, on sait très bien ce que c'est. C'est le récit, un poème d'amour. Mais j'aimerais juste lire les deux versets. Place-toi contre ton cœur, comme ton cachet personnel. Garde-moi près de toi. Donc c'est chapitre 8, versets 6 et 7. C'est donc vers le dernier chapitre. Place-moi contre ton cœur, comme ton cachet personnel. Garde-moi près de toi, comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras. C'est que l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion vous vient. Elle est une flamme ardente. Elle frappe comme la foudre. Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Et toute l'eau des fleuves serait incapable de nous noyer. Imaginons quelqu'un qui offrirait tous ses biens pour acheter l'amour. Il ne manquerait pas de recueillir le mépris. Et au livre d'Actes, on a quelqu'un qui essaie de faire ça. On a Simon, j'ai lu hier, donc je ne pensais pas le dire, mais il y a Simon le magicien, il voit que les apôtres viennent, ils imposent les mains, et les gens qui ont été baptisés dans l'eau, ils reçoivent le Saint-Esprit, et lui, il veut acheter ce don. Et alors, attention, il attire sur lui le mépris, parce qu'on n'achète pas un don d'amour. Donc bon, on ne sait pas s'il se repent vraiment, Simon. Je l'espère pour lui, parce qu'il demande la prière, parce que bon, il est quand même un peu secoué. Mais les apôtres, ils répondent tout de suite. Hein. Ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Il est un don de Dieu. Je ne sais pas si je vais le trouver là. Je ne l'avais pas noté, mais bon, vous le retrouvez en acte. Parce que l'évangile a été prêché, les gens ont été baptisés en Samarie, et après, deux apôtres viennent pour imposer les mains pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, je termine donc cette introduction, parce que, figurez-vous, on a création mariage en Genèse 1 et 2, bon, la chute est donc entre la chute et... la fin du monde, on a le rachat et Dieu met en place la rédemption. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Moi, je trouve ça vraiment... Dieu, il est comme ça. C'est pour ça qu'il faut connaître toute la Bible. Parce qu'on connaît, si on ne connaît pas le début et la fin, on loupe des choses. Il y a la même chose. Il y a une nouvelle création et un mariage. Ah, voilà. Et on finit presque les derniers mots, c'est celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt ». Alors celui qui déclare, c'est Jésus là, hein, c'est l'Esprit, c'est Jésus. Alors le prophète, donc Jean, il répond « Amen, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus ». Donc on termine avec la relation. Il y a toujours la relation entre Dieu et son peuple. Il est là-dedans, du début à la fin. Et le dessein de Dieu n'a pas changé. Il a toujours voulu avoir une relation d'amour, une relation profonde avec son peuple. Donc le mariage entre l'homme et femme, c'est là où j'entame vraiment mon message, si vous voulez. Éphésiens 5, 31, qui nous a renvoyé au début et à la fin, voilà, mais on va pencher davantage là-dessus. Éphésiens, chapitre 5, 31. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Il y a une grande vérité caché dans ce passage. Je dis moi qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais bon, après il dit l'application entre mari et femme. Mais il dit que la plus profonde de cette vérité, et je crois qu'on l'a vu hein, en voyant la fin et le début, la plus profonde, c'est la réalité de l'unité entre Jésus, donc le Fils de Dieu, Dieu lui, qui nous réconcilié avec le Père, donc l'unité entre Dieu et son peuple. Donc c'est de là que notre vie prenne sa source et elle prenne sa force. C'est vraiment en ça. Et nous pouvons voir ça aussi. Il parle du fait que de notre union avec Dieu. Donc toujours en Éphésiens, chapitre 2, verset 10. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, bon, parfois ça soulève un peu les controverses, hein, parce que il y en a qui disent, avant-hier on a eu un peu ça, mais je pense pas qu'il y ait véritablement une controverse. Moi je trouve que là on a la réponse. C'est dans notre union avec Christ que les autres choses prennent forme et ont leur source. Si nous sommes bien en union avec Jésus, alors les autres choses en découlent. Ça veut dire que notre union avec lui va nous donner la direction qu'il nous faut pour des choses concrètes. Donc il n'y a pas d'opposition entre action et relation. Mais je pense que c'est l'ordre. Il faut bien que nous soyons dans le bon ordre. Ça veut dire que c'est la relation, l'union qui vient d'abord. Parce que si nous sommes plus en union intime avec lui, et ça c'est quelque chose, bon, Dieu l'a établi, attention, mais de tous les jours on a besoin d'être renouvelé. Moi ce matin j'avais besoin d'être renouvelé, hier j'avais besoin d'être renouvelé dans mon union pour que je sois vraiment en accord avec lui. Moi je pense que la meilleure illustration de ça c'est la guitare. Bon, Jacques, tu vas me dire, chaque fois que tu prends ta guitare, est-ce qu'elle est prête quand tu la prennes? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben voilà. Bon, je pense que c'est la même chose. La guitare, elle est là, elle est entière. Il ne manque rien. Elle est accordée. Elle n'est pas accordée. Non, elle est probablement accordée. Il y a les cordes. Elle est branchée, elle est sur l'électricité. D'accord? Donc nous, c'est pareil. Mais attention, dans une heure, il faudrait le refaire. Probablement, parce que ça change avec la température ambiante. Donc les cordes changent. Et nous sommes comme ça, je pense. Pour moi, c'est bon. Nous sommes branchés. Nous sommes qui nous devons être, dans le sens que nous sommes la guitare ou nous sommes l'instrument que Dieu a choisi. Mais nous avons besoin de nous accorder. Et ça, c'est un besoin constant. Voilà, chaque fois qu'on vient pour louer Dieu, pour faire quelque chose pour lui, nous avons besoin de nous réaccorder avec lui. Donc nous revenons à notre union avec lui. Et ensuite, on peut agir. Et je pense que c'est vraiment très profond ça. Il y avait un autre verset aussi, Éphésiens chapitre verset 12, toujours sur le sujet de l'union. Ah pardon, 12, oui. Donc chapitre 3, verset 12. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Alors moi je sais pas, mais moi je vous pose la question, c'est pas franchement, ne prenez surtout pas ça comme un jugement, mais j'ai souvent l'impression quand je suis dans, pas ce matin, hein, ce matin j'ai senti vraiment on s'est concentré sur Jésus, c'était vraiment bien, mais souvent je sens on est triste. Pourquoi nous sommes tristes? Pourquoi nous sommes-nous tristes? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ici, Paul nous dit, nous avons une confiance parfaite. Ben, moi, je n'ai pas vu une confiance parfaite avec la tristesse. Ça rime à rien. Il y a quelque chose qui cloche là. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que je viens de dire avant? Que notre union avait besoin d'être restauré, d'être réaccordé. Parce que restauré, on est en union. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous a fait et nous avons pris la décision d'être avec lui. Voilà, réaccordons-nous pour avoir cette confiance. Parce que Dieu veut nous connaître. Il veut nous connaître, réellement. Donc pour ça, si nous sommes en train de nous cacher parce que nous avons peur quelque part ou nous ne sommes pas confiants, c'est parce que nous n'avons pas compris la profondeur de son amour pour nous. cette révélation. Et Paul parle justement, je pense que tout cet épître, je vous encourage de le lire, parce que vraiment ce matin, hier quand j'ai préparé avec l'attaché, je trouvais beaucoup de choses dans cet épître par rapport au thème. Parce que j'avais le mot attaché, mais attaché, union, le mariage, vraiment, c'est là, c'est dans le cœur de cette lettre. Et voilà, je pense que c'est ça. Nous avons besoin d'une plus grande révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Parce que nous sommes assez souvent, moi quand j'avais le mot attaché, j'ai tout de suite pensé, voilà, Dieu nous appelle à être attachés à lui. Oui, mais ce n'était pas le premier pas. Ce n'était pas la première étape. La première étape, c'est que Dieu a dit, je vous aime, je m'attache à vous. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Et il le dit dans l'Ancien Testament à son peuple aussi. Là, je pars en Jérémie. J'aime bien. Enfin, Jérémie, c'est parfois difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de tristesse, mais il y a tellement d'espérance. Et quand nous traversons des choses et nous voyons dans ce monde beaucoup de choses difficiles, Jérémie nous encourage parce qu'il habitait une époque où il y avait beaucoup, beaucoup d'abandon. Les gens ont abandonné le Seigneur. Et nous vivons aussi dans une époque comme ça. Donc, il a des choses qui nous encouragent. Et d'ailleurs, Jérémie 31, et verset 3 et 4. De loin, le Seigneur est venu se montrer à moi, et je lui ai dit à mon tour. Donc c'est le Seigneur qui parle. Je t'aime depuis toujours. C'est pourquoi je te reste profondément attaché. Je te rétablirai, cher Israël. De nouveau, tu prendras ton joli tambourin pour te joindre aux danseurs joyeux. Alors, pensons à tout le contexte de cette prophétie. Le peuple d'Israël s'est détourné de Jésus, de Dieu. Bon, de Jésus, oui. Il ne savait pas que c'était Jésus encore. Déjà, le royaume d'Israël, déjà captivité. Là, c'est Juda. Pareil. Ils sont sur la veille d'être envahis et à leur tour, envoyés en captivité. Une captivité dont il revient 200 ans, à peu près, c'est ça, 200-250 ans, avant la naissance de Jésus. Ensuite, 70, après Jésus-Christ, de nouveau, Jérusalem détruit et de nouveau renvoyé vers les nations. Deuxième fois. Et pour beaucoup plus longtemps. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Donc 1948, on a vu tout ce qui s'est passé entre deux, hein, beaucoup, beaucoup de difficultés pour le peuple. Mais Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Et il les a ramenés en Israël. Donc moi, je pense que nous, en lisant ça, aujourd'hui, notre Église, en 2008, on a encore davantage de courage pour voir l'accomplissement de cette prophétie. À deux reprises, elle a été accomplie à deux reprises. Et il y aura au moins un troisième quand Jésus revient pour accueillir tout le peuple. Et là, ce sera Israël et les nations, l'Église qui sort de Israël et les nations ensemble, les deux peuples qui seront un en Jésus. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est révélé dans la Bible. Depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'arrivée de Jésus, il y a toujours la pensée de Dieu qui va bénir les nations à travers Israël. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Ben, il va le faire à travers Jésus, celui qui est venu et à qui nous pouvons être attachés. Et ça, c'est dans Apocalypse également. On le voit ça aussi. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Je suis le descendant de la famille de David, l'étoile brillante du matin. Voilà. Donc, moi, je veux vraiment vous encourager de méditer ce mot attaché. Il y a un autre aspect du mot attaché qui est dans... ça, c'est une partie. Dieu s'attache à nous. Dieu nous aime profondément. J'ai marqué plusieurs. Il nous aime ardemment. On le voit dans le Cantique de Cantiques. Ce n'est pas un amour un peu flasque. Bon, ça peut aller. Non, c'est un amour ardent, un amour intime, parce que, mais garde-moi comme le sceau qui est autour de ton cou, garde-moi comme le bracelet qui est autour de ton bras, qui porte ton nom. Enfin, c'est proche, pour nous c'est peut-être l'équivalent, on a les alliances. Mais pourquoi on porte une alliance? C'est parce qu'on veut montrer notre attachement et notre fidélité à cet attachement. Donc, Dieu veut le faire aussi, mais il répond. Moi, j'ai vraiment médité ce verset, je dis, mais Seigneur, garde-moi comme le sceau. Et je sentis dans mon cœur, Seigneur dit, oui, c'est ce que je veux vraiment. Tu es vraiment proche de mon cœur, je t'aime vraiment. Donc, le Seigneur nous dit ça d'abord, il dit, je t'aime. Et c'est cet amour agapé. Il ne nous aime pas avec des arrière-pensées. Il ne nous aime pas parce que nous allons faire des choses pour lui. Si nous faisons des choses pour lui, c'est parce qu'il sait que ça va nous réjouir notre cœur. C'est pour ça qu'il nous donne des choses à faire. Hein? Parce que l'activité, c'est une joie, en fait. C'est pas... hein? Si on était complètement inactif, ben on devient... c'est déprime, hein? Quand on devient trop inactif, ça veut dire qu'on déprime, on n'est pas bien. Hein? Donc l'activité, c'est une joie, c'est quelque chose qui nous donne pour une joie de pouvoir faire des choses pour lui. C'est un père avec ses enfants. Et il nous aime éternellement. Éternellement. Hein? Odette avait lu des choses sur l'éternité. Alors ça rejoint. Hein? Éternellement. Voilà. Voilà. Donc notre Dieu nous aime comme ça. Et donc, du coup, ben voilà, il nous demande de l'aimer de la même manière. Bon, nous ne en sommes pas capables. Tout seul. Nous ne sommes pas capables. Mais là aussi, Dieu, je ne l'ai pas retrouvé le verset, mais Jérémie, il parle d'un nouveau cœur. Il parle de changer le cœur. Il parle de donner un nouveau cœur. Moïse, le pauvre Moïse. Je pense que les pasteurs fatigués, ils doivent beaucoup, beaucoup s'identifier avec Moïse. Bon, Moïse, il faut quand même dire qu'il avait des milliers de personnes devant lui, qui devait les conduire dans des conditions hostiles, difficiles, et qu'il avait un peuple qui râlait. Alors, c'était vraiment, vraiment pas facile. Et Moïse a dit... Si seulement tout le peuple pouvait prophétiser, j'en serais bien content. Il tenait pas à être le seul à entendre, même que ce soit lui et les 70. Mais c'était pas encore la nouvelle alliance. Mais son souhait, que tout le peuple connaisse Dieu de cette manière, Jérémie énonce la promesse de Dieu, qu'effectivement, tout le peuple connaîtra Dieu. Ils n'auront pas besoin d'un Moïse ou quelqu'un d'autre pour leur dire. Alors cette promesse pour moi, elle est accomplie dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, par le sang de Jésus. Et qu'est-ce qui est unique de Jésus? J'ai relu un passage, je vous invite à le regarder aussi. Donc je vous laisse avec Éphésiens à lire, et le premier chapitre de Jean. Il y a quelque chose là Qu'est-ce qui se passe dans le premier chapitre de Jean? Je vous le pose la question. Est-ce que vous vous souvenez bien? C'est vrai que j'aime bien. Je dois vous avouer que c'est ma préférée. Comme évangile, j'aime beaucoup Jean. Je pense que c'est parce que c'est le disciple qui était très proche du cœur de Jésus. Et il dit des choses profondes. Et je pense qu'au niveau attachement, amour, on découvre beaucoup de choses dans cet évangile. C'est peut-être pour ça, mais vous avez bien sûr le droit de préférer une autre. Hein. C'est juste que, voilà. Moi, j'aime bien revenir dans cet évangile. Voilà. Je lis les autres, attention, hein. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit sur Jésus? Voilà, je vous écoute là. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit de Jésus? Je vais vous aider, c'est à partir de 19, peut-être à partir de verset 19. Hein. Parce que début, c'est la lumière. Oui, c'est quelque chose qui est unique. Bon, il est unique, Jésus, on le sait. Hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'agneau de Dieu... Ouais. Oui. Et en fait, si vous voyez, il dit, il est l'agneau de Dieu, celui qui baptise le baptiseur avec le Saint-Esprit, celui qui va baptiser avec le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, de nouveau l'agneau de Dieu. Donc, on voit vraiment le ministère de Jésus, celui qui ôte le péché du monde, celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Et de nouveau, ben, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est Dieu. Donc, il est le Messie. Il est celui qu'on a attendu depuis Genèse. Depuis Genèse, début, il y avait cette attente pour celui qui sera... J'avais le mot « Shiloh ». Alors, ça veut dire « envoyé ». Et c'est dans les bénédictions de Judas. Les bénédictions qui sont énoncées sur les tribus. Voilà, le sceptre sera donné au Shiloh, à l'envoyé. Donc Messie, c'est celui qui est choisi, envoyé au roi de Dieu. Et donc il a cette mission. Ôter les péchés du monde et baptiser dans le Saint-Esprit. Donc je sais qu'il y a eu des controverses, mais quand on voit ça, c'est quand même au cœur du message, de l'annonce de Jésus, tout au début. Et bien sûr, toujours... L'agneau de Dieu, baptise dans l'eau, l'agneau de Dieu. Voilà, d'accord. Je pense que c'est ça. Il y a toujours le sacrifice, le pardon du péché, le Saint-Esprit qui va venir. Et baptiser, ça veut dire être submergé. Immergé, oui. Donc, le baptême dans l'eau, bon, bien sûr, symboliquement, on est immergé dans l'eau, on est enseveli. Et on ressuscite. Mais c'est la même chose. Nous avons besoin d'être immergés dans le Saint-Esprit, de vraiment mourir à nous-mêmes et de ressusciter. Voilà. Bon, la mise en pratique, je vais y faire une autre fois. Je pense que ça, si je vous ai donné pas mal de choses à réfléchir, mais n'oubliez pas que pour s'attacher, il faut se détacher. Et je vais vous laisser avec ça. Le culte de mariage en Angleterre, il y a une partie du culte, parce que c'était dans l'église anglicane, hein. il y a des textes. Alors je les traduis. À un moment donné, ils disent « Et délaissant tout autre, soyez attachés seulement à lui ou à elle. » Donc c'est dit pour les deux époux. Vous vous délaissez. Enfin, forsaking, donc c'est vraiment délaisser. Hein. On délaisse tous les autres pour s'attacher uniquement à son époux, à son épouse. Et je pense qu'on retrouve ça tout au début. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Donc nous, c'est pareil. Il y a des choses, Dieu, on va devoir quitter des choses pour nous attacher à Dieu. Mais n'oublions pas que d'abord, Jésus a quitté son père pour s'attacher à nous, pour montrer vraiment l'attachement que Dieu a pour nous. Il est venu lui-même pour montrer son amour. Donc il a délaissé sa gloire, il a laissé tous les anges, il a laissé une vie formidable dans le ciel. Et il a laissé l'unité, l'harmonie parfaite pour venir nous rechercher. Alors je pense que vraiment, j'ai vraiment envie que Dieu nous parle, me parle, nous parle, pour qu'on soit confiant. Confiant que Dieu nous aime, confiant qu'il nous pardonne, confiant qu'il nous donne l'Esprit Saint. Parce que c'est ça la marque de la vie chrétienne, c'est que nous sommes menés par l'Esprit Saint, nous sommes notre source en Jésus, est en Jésus, notre union avec lui, mais celui qui rend active cette union, c'est l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, c'est pas possible. Nous n'arriverons pas. Moi, je n'arriverai pas. On n'arrive pas. C'est pas la peine même d'essayer. N'essayons pas de faire les choses nous-mêmes, mais vraiment puisant dans cette source que Jésus a ouverte. Oui, Seigneur, vraiment, de tout mon cœur, je sais que ce que je partageais, c'est nous avons besoin de révélation. Il n'y a que ton esprit qui est capable de faire cela. Donc, je remets vraiment simplement ton cœur, voilà, que nous saisissons ton cœur qui nous aime, cet amour profond, que nous soyons à ton écoute. Montre-nous comment bien nous accorder à toi, à ton esprit. Merci Seigneur.